Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
What are you going to tell Dolby in your L101?
That you like girls.
You got that right.
You're not the tearaway he thinks you are. You also like books, music, cooking.
I like birds best.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à un agent secret. L'agent secret, l'anti-James Bond par excellence, hein, le fameux Harry Palmer. Alors pourquoi on se consacre à Harry Palmer? Tout simplement parce qu'il y a une double actualité chez Elephant Film, à savoir la ressortie de Hic Press d'Angers Immédiat, film du Canadien Sidney J. Fury, un film de 65 et le premier de la saga Harry Palmer, et puis il y a la sortie de la série que j'ai découvert à cette occasion, Harry Palmer, The Express File, une série de 2022 signée James Watkins, une mini-série, hein, voilà, vous savez avec les Anglais on n'a pas 2000 saisons, hein, il y a souvent des mini-séries de 4 à 6 épisodes, et ça fait très bien l'affaire, ça fonctionne très bien d'ailleurs. On écoutera aussi des quelques propos de Michael Caine qu'on avait capté à l'époque de sa venue en France, où il était venu parler de son autobiographie, tout ça, et puis c'était la sortie d'Harry Brown à l'époque, un autre Harry, voilà. Et bon, je voulais remercier hein, nos amis d'Elephant Film, en particulier Victor Lopez, hein, pour son aide sur cette émission, et pour causer, et oui, pour causer Harry Palmer, et donc un peu Michael Caine quand même, faut le dire. Je suis aujourd'hui accompagné, bah, déjà, d'une bête noire. La bête noire de Compiègne, alias Damien Demey, l'archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, le co-animateur de Projection Perdue avec Louis Artige d'ailleurs. Louis, où es-tu? Bonjour Louis. Projection Perdue, qui est le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Chut, on est peut-être espionnés. Également présent dans ce studio, pas le roi des espions, mais disons en tout cas l'un des plus grands fans de Michael Caine que je connaisse, et donc un fan d'Harry Palmer, bien évidemment. Je veux bien sûr parler de Thomas Rolandi, le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien et bonjour à toutes.
Harry Palmer, la légende. Harry Palmer, le comment dire, l'agent secret qui a connu en fin de compte une carrière d'une grande longévité, parce qu'il y a beaucoup de films dans la saga Harry Palmer. Et le premier film, le film qui lance la série, c'est Hic Presse Danger Immédiat, là, qui vient de ressortir chez Elephant Film dans une très belle copie. On y retrouve bien sûr Nigel Green, Guy Dolman, mais on retrouve surtout Michael Caine dans le rôle de Harry Palmer, un espion pas comme les autres, en butte contre sa hiérarchie. Assez drôle, mais parfois un peu cynique quand même, hein, pas toujours de bon poil. Et il va devoir, retrouver un savant enlevé et prendre contact avec le cerveau d'une organisation un peu étrange. Et pour cela, il va falloir qu'il aille chez les communistes. Donc, mon cher Thomas, toi qui es un palmérophile, peux-tu nous en dire plus sur ce premier Harry Palmer, qui a quand même la particularité d'être produit par Harry Saltzman, c'est-à-dire le producteur des premiers James Bond. Donc, est-ce qu'on a affaire à James Bond, là, Thomas ?
Et non, et c'est Harry Saltzman qui a décidé de faire lui-même concurrence à son héros James Bond. Hein. Donc, en fait, il a contacté Michael Caine, qui sortait de Zulu, de Seinfeld. Et donc, il rencontre Michael Caine, un petit peu l'historique du personnage, hein, enfin, du personnage Harry Palmer. Il contacte un peu Michael Caine, il se rencontre dans un restaurant. Il faut savoir que Harry Palmer, en fait, est né de l'imagination d'un romancier qui s'appelle Len Deighton. Hein, qui a fait une série de romans comme Ian Fleming, hein, autour d'un personnage, d'un espion. Un espion qui n'a pas de nom dans les romans. Donc, je reviens à cette invitation au restaurant entre Harry Saltzman et Michael Caine et d'autres invités. Harry Saltzman, il demande à Michael Caine, il faut quand même lui trouver un nom un peu commun, un nom commun, quoi, un prénom commun. Et Michael Caine, qui se croit malin, il fait « Oh, Harry, c'est un prénom commun !» Alors là, blanc, un petit froid. Là, Harry Saltzman se marre, tous les autres se marrent aussi, et fait « Ah, mais vous avez tout à fait raison, Michael. Effectivement, mon vrai prénom, c'est Herschel. » J'ai rencontré un jour un mec qui s'appelait, un mec tout à fait commun, qui s'appelait Palmer. Alors, appelons-le Harry Palmer. Ainsi est né Harry Palmer. Et c'est Michael Caine aussi qui a décidé de lui donner des lunettes au personnage. Parce que pour lui, c'était une façon de s'effacer derrière le personnage de Harry Palmer.
On va d'ailleurs écouter Michael Caine, que tu avais rencontré quand il était venu présenter Harry Brown en France, qui nous parle justement de cette histoire d'Harry Palmer et de lunettes. Alors, c'est le seul extrait de Michael Caine qui parle de Harry Palmer que vous aurez à entendre aujourd'hui, puisqu'il en parle que l'espace de 2 minutes dans l'intervention qu'il avait faite à l'époque. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc tout de suite, Michael Caine au micro de Culture Prohibée.
Well, Harry Palmer was Harry Saltzman, who co-produced the Bonds with Cubby Broccoli,
L'un des scripts, en fait, s'est débrouillé tout seul pour produire l'image d'un véritable espion, hein, celle d'Harry Palmer. Dans cette image, je portais des lunettes. Et quand nous avons commencé le tournage, les exécutifs d'Hollywood n'arrêtaient pas d'envoyer des messages. C'était encore le truc des gays. Ah, il porte des lunettes. Bah, il est gay, alors. Aucun vrai homme ne portait de lunettes. Finalement, Harold Lloyd, qui était un acteur très célèbre, hein, lorsqu'il est venu à Londres, m'a invité à dîner car j'étais le seul à jouer un rôle principal avec des lunettes depuis lui. J'ai donc joué le rôle avec des lunettes. Alors, j'étais en train d'essayer de séduire une jeune femme en lui cuisinant un dîner dans la pièce. Nous avons alors reçu une lettre d'Hollywood qui disait « Ce type cuisine, il a vraiment l'air gay !» J'ai dit qu'au moins je cuisinais pour une femme, que je ne cuisinais pas pour un homme. Il y avait toujours ce truc. Il est au supermarché, il pousse son chariot pour acheter des champignons, on dirait une femme donc. Peu importe, nous avons continué à tourner. Et ça a bien marché. La raison pour laquelle je voulais porter les lunettes, c'est que je savais qu'il allait y avoir une série. Et mon ami Sean Connery, qui faisait les films de James Bond, était très inquiet, car il était le James Bond le plus célèbre au monde. ou qu'il avait peur d'être coincé par ce rôle quand il arrêterait. Et j'ai pensé que si je portais des lunettes pour jouer Harry Palmer, et que c'était un succès, je pouvais toujours enlever les lunettes et ne plus être Harry Palmer. Voilà pourquoi je portais des lunettes.
Effectivement, Harry Palmer, c'est l'anti-James Bond. Hein. C'est le mec qui est plutôt désinvolte. Hein. C'est un agent secret désinvolte, indiscipliné, sarcastique et cultive une certaine nonchalance et aussi une sainte horreur pour le métier, pour le côté administratif de son boulot. Hein. Il est là parce qu'il est un peu obligé, parce qu'il a fait de la tôle. Hein. Il a fait du marché noir quand il était soldat pour l'armée britannique à Berlin. Donc, en fait, c'est un métier qu'il n'aime pas du tout et il est un peu obligé de le faire. Et là aussi, Michael Caine n'est pas avare d'anecdotes sur le tournage du film, dont une en particulier. Quand il arrive sur le plateau, il y a Sidney G. Fury qui prend le scénario, il lui fout le feu. Voilà ce que je pense du scénario. Il se barre. Il prend le bus. Et Michael Caine, ou le producteur, je ne sais plus, prend le bus aussi à sa poursuite pour le rattraper, pour venir finir le film. Et c'est Michael Caine qui décide, en fait, de tout miser, la mise en scène du film, sur l'ambiance. Et effectivement, le film est anti-spectaculaire. Toutes les scènes d'action, elles sont filmées très en retrait. Il y en a une, à un moment, il y a une bagarre à main nue entre Michael Caine et un autre personnage qui est filmé de loin, à travers les vitres d'une cabine de téléphonique anglaise. On n'est jamais vraiment dans l'action. Tout ça, c'est très en retrait. C'est un film assez étrange. Enfin, de toute façon, Sidney G. Fury avait une façon de filmer assez étrange, avec des personnages ou des objets en amorce au premier plan. C'est toujours des cadrages très... Il avait une façon de renfermer ses personnages dans le cadre, de les enfermer vraiment. C'était une mise en scène très, très claustrophobe. Et donc, pour moi, c'est le meilleur de la série. Il y a 5 films, Harry Palmer. Pour moi, c'est le meilleur. Hein. C'est de tous les 5. Il faut en tirer les 3 premiers. Et surtout ce film de Sidney G. Fury avec la naissance de Harry Palmer.
Après, il y a aussi deux éléments importants pour moi dans la réussite du film. C'est à la fois le directeur de la photo, Otto Heller, qui était le directeur de la photo, par exemple, un sacré film, hein, Le Voyeur de Michael Powell, et qui amène le film, parce que le film a un côté presque triste, hein, même si Michael Caine, lui, il est assez rigolo, parce que son côté cynique est assez marrant, il a un certain sens de la réplique. Il reste toujours un peu à la droupie, là, presque glaciale par rapport à toutes les situations, y compris dans son rapport avec les femmes. Il y a des scènes de séduction assez drôles, assez marrantes. Et par contre, au niveau de la photo, on a vraiment quelque chose de presque terne, mais c'est volontaire. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez glaçant comme ambiance et qui va de pair pour moi avec la musique. Parce que la musique, c'est John Barry, comme les James Bond, les premiers. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est une musique qui a un côté très jazzy, c'est une musique qui nous met dans des ambiances presque en décalage. Donc, on voit bien... pour ce premier volet, on pourrait bien voir une musique qui serait teintée d'accents des ballets du Bolchoï, voilà, ce genre de choses. Et il joue le contre-emploi, en fait. Il joue plutôt le côté intimiste, le côté... il y a presque du spleen, en fait, chez ce personnage, qui à la fois est très drôle. En fait, si ceux qui veulent voir un film d'action, ceux qui veulent voir... James Bond, évidemment, comme on l'a déjà dit, seront déçus. Par contre, c'est un film qui est, pour moi, l'un des rares exemples de, à la fois de film d'espionnage. Déjà, on comprend à peu près tout, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, du suivant. Et surtout, c'est un film anti-spectaculaire. Tu l'as dit, hein, c'est un film, et ça, c'est une vraie particularité du film. Et puis c'est un film aussi qui, il faut pas l'oublier, à l'époque. Enfin, Michael Caine joue comme s'il était une superstar, mais il est inconnu quasiment à l'époque. Mec, il a fait Zulu, qui l'a révélé, quoi. Mais il a pas d'autres faits d'armes à son actif de premier rôle. Tout ça, ça va arriver après, hein, à partir de ces films-là. Donc c'est assez étonnant de voir ce prolo d'ailleurs qui campe comme ça, ce type qui a un côté presque. Presque snob, en fait. C'est l'agent secret snob. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on est d'accord, Thomas, la réussite du film, alors il y a la mise en scène, tout ça, tout ce qu'on a dit, la musique. Enfin, la réussite du film, c'est Michael Caine aussi.
Oui, il apporte une touche très particulière, Michael Caine. Il apporte la classe que n'a pas James Bond. Cette nonchalance, cette classe, notamment comme tu l'as dit, quand il séduit une femme en faisant la cuisine, c'est vraiment un personnage très particulier dans le genre du film d'espionnage, quoi.
Oui, il détonne par rapport à la vision qu'on a de l'agent secret à l'époque. Voilà, c'est surtout ça aussi.
Oui, avec aussi des fêlures, des faiblesses, comme on peut le voir vers la fin du film. Donc oui, il sait apporter une certaine humanité, une certaine ce que n'a pas James Bond, parce que James Bond, il est quasiment invincible. Il séduit les femmes comme ça. Il aime bien casser la gueule. Il aime bien la violence. Lui, non. Harry Palmer, il n'est pas du tout dans ce délire-là, lui.
Écoutez Culture Prohibée. Harry Palmer, on va le retrouver. Alors ça, c'est pas ressorti chez Elephant Film. On espère que ça va arriver bientôt. Dans la suite de la série, c'est Mes funérailles à Berlin de Guy Hamilton, un réalisateur d'ailleurs qui est un réalisateur de James Bond aussi, Guy Hamilton. Hein, et alors le film est assez compliqué quand même à suivre, hein, j'avoue, hein, mais là aussi, on est sur une belle performance de Michael Caine. On est vraiment la trilogie, de toute façon, de base, elle est assez efficace et assez fun à suivre, en fait. Bon, là, on se perd un peu dans l'intrigue, quand même, un petit peu.
Oui, c'est vrai que je suis incapable de résumer le film. Il y a une histoire, enfin, il est envoyé à Berlin pour une histoire de transfuge de l'Est vers l'Ouest. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a une histoire de trésor aussi, de trésor de guerre. Le film est assez compliqué, mais bon, c'est Michael Caine. On retrouve Harry Palmer, sa nonchalance, sa désinvolture. Et bon, le tournage ne s'est pas passé forcément de façon très, très tranquille, parce qu'ils ont filmé au pied du mur de Berlin. Et il y avait les soldats de l'Allemagne de l'Est. Quand ils les voyaient filmer, ils faisaient tout pour gâcher le tournage. Alors, ils prenaient des miroirs qui faisaient scintiller pour flinguer, pour envoyer dans les caméras durant le tournage. Donc à chaque fois, ils étaient obligés de changer de lieu de tournage pour pouvoir continuer le film. Ouais. Alors, bon, c'est une réalisation un peu plus classique déjà. Hein, Guy Hamilton. Bon, Guy Hamilton, c'est pas un grand cinéaste, mais il a fait des trucs assez sympas en dehors des James Bond, j'entends. Mais c'est une mise en scène plus classique, plus classieuse. Mais c'est pas. Des trois, c'est, moi je dirais que c'est le plus faible. Ne serait-ce déjà que par son scénario vraiment compliqué et par sa mise en scène qui est quand même assez classique.
Ouais, c'est une sorte de, un peu de ressucé du premier en moins bien, avec un scénario plus complexe, parce que l'idée du transfuge et tout, c'est déjà ce qu'il y a dans le premier, hein, mais du coup en moins bien, faut reconnaître. Alors effectivement, tu l'as rappelé, bon, il a fait un film, Guy Hamilton, qui est quand même gagné un statut culte du fait qu'il n'a pas marché à l'époque, mais qu'il a plu à tout le monde en fait par ses diffusions de télé et tout ça. C'est Rémo sans armes et dangereux, un film de 1985, qui est un film qui a vraiment eu... Je me rappelle, pour moi, c'est un film qui jouit d'un certain culte. Après, sinon, oui, c'est l'homme qui a fait Goldfinger, par exemple, Guy Hamilton. Donc, Guy Hamilton, ça reste un réalisateur solide, mais sans génie, quoi. Voilà. Et alors, ça va être très différent avec le suivant, parce que le film qui va suivre, pour moi, il est assez chouette. Hein, c'est le premier film de Ken Russell. Alors, Ken Russell, on en avait parlé longuement, puisqu'on avait reçu dans cette émission Pascal Français, qui a écrit un super bouquin sur le camp, et puis qui a aussi écrit sur Ken Russell. Donc, on avait pu échanger au sujet de Ken Russell, alors qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il est réalisateur de ce film culte qui s'appelle Les Diables, qui a aussi réalisé Tommy, d'après l'opéra rock des Who. Ken Russell, bon, c'était un dingue, quoi, quand même. L'Histomania, enfin, c'était des films de fous furieux, quoi, dont on a pas mal parlé d'ailleurs dans cette émission. La Symphonie Pathétique, tout ça, qui sont des films absolument dingues, totalement typiques d'une époque. Enfin, on rappelle quand même que c'était un type qui était bisexuel, assumé, qui croyait que Jésus était un extraterrestre, qui lui parlait régulièrement, que voilà. Enfin, c'est un type complètement farfelu et en même temps assez génial, parce qu'intellectuellement aussi, il portait des idées très progressistes et qui a été à l'époque considéré, d'ailleurs, puisqu'il était un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, Ken Russell, qui a été considéré, à l'époque, il était considéré avec Kubrick, avec d'autres, quoi, comme parmi les réalisateurs les plus importants sur la planète. D'ailleurs, Pascal Français en parlait quand on l'avait interviewé, c'était un réalisateur absolument mythique que tout le monde voulait interviewer, tout le monde voulait produire. Là, avec ce film, Thomas, il en est au tout début de sa jeune carrière. Alors, il vient de la télé, il s'est déjà fait remarquer à la télé, hein, pour des tentatives, enfin, des choses très intéressantes, en particulier son travail sur les musiciens classiques. Qu'il a beaucoup travaillé, alors pas forcément en plus de manière hagiographique, ça c'était vraiment intéressant. Et il arrive là sur la série des Harry Palmer avec un film qui s'appelle Billion Dollar Brain, mais qui s'appelle en français Un cerveau d'un million de dollars, où il fait un peu basculer quand même ce héros un peu taciturne dans quelque chose d'un peu psychédélique. Et c'est un film assez différent des deux autres.
Oui, c'est assez différent et en même temps, ça se rapproche plus des... Là, on se rapproche plus des James Bond quand même. Il y a une démesure dans le méchant. Le méchant, c'est un grand méchant, comme on peut en voir dans les James Bond, comme dans L'Espion qui m'aimait, etc. Parce que ce cerveau d'un million de dollars, en fait, c'est un ordinateur géant. Voilà, c'est le fameux truc. Et c'est un méchant qui est complètement dingue, un Texan, hein, forcément un Américain complètement fanatisé. Alors, il y a des scènes complètement dingues, genre... qui se rapproche pas loin de Cérémonie du Ku Klux Klan. C'est un film de dingue avec... comment il s'appelle ? Walter Matthau. Il y a Walter Matthau qui joue un vieux camarade de Harry Palmer, hein, mais qui se retrouve embringué dans une histoire, ça, bracadabrante, d'armes biologiques, enfin il y a des œufs, enfin c'est encore bon, c'est moins compliqué que le premier, mais c'est une intrigue encore assez complexe. Et donc il y a ce méchant qui amène finalement une fin, enfin une mise en scène assez démesurée, dont la fin qui est quand même glaçante, on peut le dire. Et donc Harry Palmer là, il rejoint un petit peu plus donc le côté un peu James Bond, hein, dans un tournage qui n'a pas été simple non plus, parce qu'il faisait quand même assez froid à Helsinki, hein, aux côtés de Françoise d'Orléac, hein, où Michael Caine a découvert que Françoise d'Orléac, finalement, qui était une belle femme, il croyait qu'elle avait des amants, etc., etc., mais qui finalement était une femme assez seule, a-t-il découvert entre les prises, notamment le soir, quand ils retrouvaient leur chambre d'hôtel.
Et oui, la demoiselle de Rochefort avait le spleen. Le film est quand même assez détonnant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il se rapproche aussi, puisque Michael Caine va jouer dans le troisième opus de la trilogie des Austin Powers, il se rapproche aussi dans le côté délirant de ce que pourra produire les films de Jay Roach, enfin les Austin Powers et tout ça. On est presque dans la parodie, en fait. Hein, et je pense que c'est assez assumé. Je ne pense pas que Ken Russell, que je l'ai rappelé tout à l'heure, qui était un intellectuel, prenait ça très au sérieux. Et Michael Caine non plus, d'ailleurs. Même si Michael Caine apporte quand même toujours... sa classe incroyable, mais son... il y a quand même un petit spleen chez le personnage. Il reste un personnage avec des fêlures, quoi. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que Michael Caine, il aime beaucoup le personnage. Donc, il n'a jamais cherché à transformer le personnage. Mais par contre, autour de lui, et en particulier les productions Salzman, ont amené le personnage, effectivement, dans ce troisième opus, vers autre chose. C'est-à-dire qu'autant le deuxième était un succès d'année du premier en moins bien, autant le troisième, on sent qu'on veut amener Harry Palmer vers autre chose, mais qui n'est pas, pour employer une expression à la mode aujourd'hui, qui n'est pas son ADN, en vérité, au personnage. Du coup, ça donne un déphasage qui est assez jouissif, mais qui est assez étrange aussi, il faut le dire.
Déjà, le personnage, au départ, il ne fait plus partie des services secrets. C'est un détective privé qui est... que son supérieur, qui l'aime bien taquiner, hein, en temps normal, vient à la recherche, il vient le chercher pour qu'il reprenne un peu du service. Il y a déjà ça. Il y a déjà cette différence par rapport aux deux films précédents. Et c'est vrai qu'il y a ce personnage de méchant qui est bigger than life. Hein, c'est vrai qu'on peut difficilement le prendre au sérieux. Et puis Ken Russell, il pousse les potards à fond. Hein.
Ken Russell, quoi. Voilà.
Is that my B-107, sir?
As if you didn't know. And it makes awful reading, Palmer. You just love the army, don't you?
Oh, yes, sir. I just love the army, sir.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Harry Palmer. Michael Caine va tellement aimer son personnage, il va décider de le faire revenir dans deux films, téléfilms, enfin, de, assez peu connus, hein, des cinéphiles d'ailleurs, hein, que sont Bullet to Beijing et Midnight in Saint-Pétersbourg, je le dirai à la française. Voilà, je crois, mon cher Damien, que comme tu aimes dénicher des petites pépites, des films méconnus, tu t'es penché sur ces deux derniers films de la série, alors au cinéma. Harry Palmer, puisqu'après on parlera du personnage de Harry Palmer, non pas en littérature, non pas au cinéma, mais à la télévision britannique.
Je ne sais pas si ce sont des pépites, mais en tout cas, oui, c'est ce qui m'a permis de découvrir le personnage d'Harry Palmer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on se retrouve un peu dans ce qui se passait, dans ce que disait Thomas juste avant, c'est-à-dire que là, il est en train de terminer son service, et au début du film, en fait, il se fait un peu renvoyer à la retraite, et il va continuer à poursuivre son enquête via quelqu'un. En fait, ce qui se passe, c'est que on est à la fin de la guerre froide. Du coup, on a l'URSS qui s'ouvre et il est approché par un dignitaire russe qui lui demande de retrouver une arme bactériologique, une arme biologique mortelle dénommée la mort rouge. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver un peu sur un jeu de pistes. Mais la particularité, c'est que vu qu'on est dans l'univers d'Henry Palmer et que c'est un anti-James Bond, comme vous l'avez déjà dit, ça passe vraiment par l'ambiance où tout est vraiment posé. Il a vraiment, Michael Caine apporte vraiment une nonchalance et un flegme certain. Alors pour ma génération, Michael Caine, nous on l'a connu surtout parce que c'était le Alfred de Batman à travers les films de Nolan. Là, ce qui est intéressant et d'autant plus drôle, c'est que l'adversaire qui est mis en avant, le Alex, qui est d'origine russe, il est joué par Michael Gambon. Et Michael, c'est l'un des acteurs qui a joué Dumbledore dans Harry Potter. Donc pour moi, c'est un peu un clash de deux grandes licences qui se font face. Autre chose d'autant plus drôle, c'est qu'on parlait de Ken Russell et à la musique, on retrouve Rick Wakeman, qui est le compositeur de Listomania de Ken Russell, un des papas du coup d'adaptation de Harry Palmer.
Alors, Rick Wakeman, qui est totalement psychédélique. Il y a un album qui est culte de Rick Wakeman dont le nom ne veut pas me revenir, mais j'ai le vinyle à la maison où en fait il y a une sorte de tube qu'on construisait avec la pochette du vinyle et on pouvait regarder à travers pour avoir une vision psychédélique en fait. Enfin bref, c'était une époque où les mecs prenaient beaucoup de produits stupéfiants pour composer leur musique. Quoi, voilà.
Alors que là, c'est une musique qui est posé. Ce qui est assez particulier et qu'on retrouve très vite dans ce personnage d'Harry Palmer, on a dit que c'était un anti-James Bond et ça saute assez vite parce que dans ses confrontations physiques, en fait, il n'est pas spécialement fort. C'est pas quelqu'un qui va réussir à mettre à terre quelqu'un d'autre en un coup de poing. C'est quelqu'un qui avance assez lentement. Je me demande si on le voit courir, mais oui, on le voit courir. En fait, il brille plus par son intelligence et sa compréhension, surtout sa sensibilité. Il arrive à faire des liens avec d'autres personnages et dans ce film-là, il arrive à beaucoup s'entourer. Alors, il y a un humour qui est présent, un humour qui est assez spécial, peut-être l'humour british de base, mais du coup, ça donne des scènes assez particulières. Par exemple, il y a un moment où il se fait éjecter d'un train. J'arrive pas à savoir si c'est censé être une scène comique ou si c'est censé être une scène d'action parce que le ton en soi, dans cette scène-là, elle varie pas énormément, mais on se retrouve quand même avec certaines scènes vraiment d'action, notamment au tout début, quand il arrive en Russie, il y a une course-poursuite en bateau. Pareil, à la fin, on a une fusillade avec une explosion, ce qui est assez particulier parce que par rapport au rythme du film, ça crée un souffle dont le film, en fait, n'en avait rien à faire jusqu'à ce moment-là. Là où il brille vraiment, c'est en fait dans ses scènes de tension, notamment dans ses face-à-face. À chaque fois qu'il rencontre une nouvelle personne, vu qu'on a affaire à un film d'espionnage, on n'arrive pas à savoir s'il est du côté d'Henry Palmer, si ça va être un adversaire, un futur allié, ou si c'est juste quelqu'un qui est juste de passage, qui fait que chacune des rencontres crée une certaine tension. Et c'est une tension qui est beaucoup plus... qui est très prononcée, notamment dans une grande partie qui va se passer à travers qui va se passer dans un train, parce qu'il fait le voyage Moscou jusqu'à la Corée du Nord en train. Donc c'est un très long voyage, et dedans, il y a beaucoup de personnages qui vont se rencontrer. Mais vu qu'on a affaire à un huis clos qui est en mouvement, ça crée une ambiance et à nouveau un espace intimiste assez particulier. Ça, c'est pour Bullet to Beijing, mais il y a un autre film.
Je suis étonné que tu t'en aies pas parlé, parce que bon, c'est signé Georges Mihalka, et Georges Mihalka, c'est l'auteur d'un slasher culte, quoi.
Meurtre pour la Saint-Valentin.
Voilà, oui. Meurtre pour la Saint-Valentin, My Bloody Valentine, où on a vraiment... Là, c'est pareil, qui est pas mal, d'ailleurs, hein, qui est plutôt...
tiens, plutôt un film qui a bien vieilli. On a, du coup, on peut faire des petits parallèles. Bon, tu dis Michael Caine, là, il, c'est physiquement, enfin, toi, tu l'as rencontré, hein, il est impressionnant. Bon, maintenant, c'est un homme d'un certain âge, mais il est impressionnant. C'est un grand balèze, hein, quand même. Hein. Et du coup, même s'il n'est pas gaulé à la Schwarzy, c'est un grand balèze. Et c'est vrai qu'il fait rarement le coup de poing dans les films. Parce qu'en même temps, il aborde tout avec nonchalance. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, déjà, on reprend... moi, je vois bien ce qui a motivé Michael Caine. Bon, déjà, ça, c'est assez marrant qu'il finisse par travailler pour les Russes et aller en Corée du Nord. Voilà, ça, c'est assez marrant.
Avant que tu continues, je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu qu'à l'origine, le scénario, en fait, c'était pas censé être un Harry Palmer et que le scénario va être changé. Du coup, ça joue peut-être là-dedans.
Sans doute, mais du coup c'est assez marrant, c'est assez cocasse, vu que c'était un espion. Les deux premiers Harry Palmer, on est en plein dans la guerre froide, donc le troisième on en parle moins, mais bon, ce troisième on est dans un côté Fu Manchu avec le grand méchant qui est présent. Mais on reprend aussi l'idée d'un réalisateur canadien, comme Sidney J. Fury, puisque là c'est George Mihalka. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est, alors déjà, il y a Mia Sara, dont moi j'étais amoureux hein, quand j'étais adolescent, et surtout il y a Jason Connery, le fils de Sean Connery qui joue dans le film. Quand on sait que le personnage original, il a été construit en opposition au personnage de Sean Connery dans les premiers James Bond, c'est assez cocasse. Voilà, je t'embêterai pas plus longtemps et je te laisse parler de la suite. Où va aller Harry Palmer après la Corée du Nord?
Alors, il est allé en Corée du Nord, mais il est surtout revenu en Russie pour monter sa propre agence. Et dans Midnight in St. Petersburg de Douglas Jackson, on suit un peu la suite de ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire que ici, l'agence d'Harry Palmer est chargée de retrouver du plutonium disparu. Mais en parallèle, un de ses agents, Alex, voit sa compagne se faire kidnapper par un autre groupe. Et en fait, au cours de ce film, on va avoir une multiplication des menaces et on se retrouve avec beaucoup moins d'alliés que dans le précédent film. Alors, je n'ai pas vu les trois premiers, mais pour moi, c'est le plus faible. Je trouve beaucoup moins, en tout cas, Douglas Jackson, je trouve beaucoup moins efficace que George Mihalka dans sa mise en scène. On retrouve quand même des éléments du premier où j'arrive pas à savoir si c'était genre une feuille qui était imposée ou bien si c'était des éléments qui sont ressortis parce qu'ils y avaient accès. Par exemple, on a une scène de train. On retrouve une tension à l'intérieur et un peu de combat à l'intérieur. On a le retour d'Alex qui était déjà présent dans le précédent film. Ici, par contre, je trouve que ça montre beaucoup mieux certaines conséquences de l'ouverture de l'URSS, c'est-à-dire qu'à Moscou, il a des amis, il s'entend bien avec les autorités. Ici, il se retrouve dans une autre ville avec les autorités, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, on retrouve Alex qui est de retour et qui, lui, souhaitait se venger d'Harry Palmer. Alors, le lien entre le plutonium, le kidnapping et aussi des œuvres d'art, il est un peu étrange. Dans le précédent film, on avait déjà une certaine complexité, mais on arrivait à suivre. Ici, je trouve que ce n'est pas vraiment complexe. Ça essaye de tout rattacher. Ça ne le fait pas forcément au mieux. Et ce qui est un peu triste, quand on sait que c'est l'épisode final, le dernier, dans lequel jouera Michael Caine, pour moi, c'est le moins abouti de tous.
Ouais, alors après Douglas Jackson, c'est vrai que c'est Hollywood Night, quoi. Hein. C'est un paquet de films téléfilmesques ou de téléfilms qui veulent se donner des allures de films. Et bon, une grande partie de sa production a fini en téléfilm de deuxième partie de soirée à une époque. C'est pas un grand metteur en scène. On se demande un peu ce qu'allait faire Michael Caine dans cette galère. Surtout que derrière, il y a aussi Harry Alan Towers, un des producteurs de Jésus Franco. Donc tout de suite, ça fixe le niveau, quoi. Voilà. Il a produit quelques gros trucs, mais enfin, quand même, on est dans le bis du bis, là, quand même.
Surtout que, en fait, Michael Caine avait juré de ne pas reprendre le rôle, hein, mais bon. Il reprend le rôle finalement et les deux films ont été tournés à la suite. Et Michael Caine considère que ces deux tournages, c'est la pire expérience professionnelle de sa vie. Alors déjà, ils arrivent à l'hôtel à Saint-Pétersbourg. Avant leur repas, il leur donne des compteurs Geiger pour regarder le taux de radiation de leur repas. Ils sont logés dans un hôtel où se donne rendez-vous la mafia locale parce que la mafia s'est largement étendue après la perestroïka. Et un jour, ils étaient en train de boire un coup dans le salon de thé de l'hôtel. D'un coup, ils voient des mecs cagoulés se pointer. Alors c'est le gros boxon, il se tape dessus, etc., etc., fout le bordel. En fait, il pensait que c'était une guerre des gangs, mafieux contre mafieux, mais non, il a appris que les mecs, les cagoulés, en fait, c'était des policiers qui sont cagoulés pour pas que les mafieux les reconnaissent, pour pas qu'ils menacent leur famille, s'en prennent à leur famille par la suite, etc. Et Michael Caine, bien sûr, vu que c'était une star à l'époque, hein, il était escorté par deux gars qui avaient des kalachnikovs, et puis... qui le suivait en jeep partout dans tous ses déplacements. Il y avait aussi un troisième homme qui le surveillait. Hein. Il savait pas qui c'était, mais il y avait un troisième homme dans le coin qui le surveillait au cas où il y aurait des problèmes. Et un jour qu'il était au café, il y a un des mafieux qui vient le voir et qui lui demande mais qu'est-ce qu'ils font là ces deux cons là derrière toi. Michael Caine lui explique que comme la mafia règne à Saint-Pétersbourg, il est protégé, etc., etc. Et le mec lui fait mais tu travailles pour qui? Alors Michael Caine lui dit mais on travaille pour telle maison de production. Alors le mafieux il rigole, il fait ah mais on la contrôle cette maison de production, t'es le mec le plus protégé de Saint-Pétersbourg. Donc ce sont les anecdotes de Michael Caine sur le tournage de Bullet to Beijing et Midnight in Saint-Pétersbourg.
C'est drôle parce que je trouve que dans justement Bullet to Beijing, on retrouve ce truc. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est au marché et avant d'acheter une sorte de tomate, il utilise un compteur Geiger. C'est un marché sur lequel il se fait suivre par des gens qui monteront plus tard dans une Jeep. Et il est suivi par un personnage qu'il ne voit pas, mais qui est censé être là pour le protéger. Du coup, tu retrouves dans son film les éléments de sa vie au final.
C'est une autobiographie, les gars. C'est incroyable. C'est le film dans le film. En fait, on n'a pas compris le film. C'est la nuit américaine du film d'espionnage. Bon, bref, non, mais après, par contre, le livre que tu cites, c'est son autobiographie qui n'a jamais été traduite en français, quand même.
Jamais été traduite.
Ouais, ça, c'est vraiment bête parce que elle regorge d'anecdotes, de moments hilarants. Parce que bon, c'est quand même une sacrée vie. Parce que Michael Caine, on ne le rappellera jamais assez. Enfin, à la base, c'est un prolo. Il a même dormi dehors. Parce qu'on croit toujours que c'est un aristocrate, en fait. Il est tellement classe et il a une façon de parler tellement classieuse qu'on croit que c'est un type de la haute, mais c'est tout l'inverse. C'est plutôt, c'est d'ailleurs un type du quartier Elephant, là.
Il vient d'Elephant and Castle.
Exactement, donc qu'on voit dans Harry Potter.
Plutôt prolo de Londres.
Ouais, et puis un quartier où, un peu caricaturé dans le film, mais enfin, assez violent, tout ça. Enfin, en tout cas, c'était un endroit. Que certains londoniens considéraient comme malfamés. Donc, c'est loin de l'idée qu'on se fait effectivement de Alfred Pennyworth, qui apparaît, alors qui est une sorte de prolongation d'ailleurs du personnage d'Harry Palmer, qu'on peut voir comme une prolongation, puisqu'Alfred Pennyworth, on ne connaît pas vraiment, comme le disent les Anglais, son background, voilà, mais c'est un combattant valeureux. Il a des notions de... Voilà, il arrive à soigner à peu près toutes les blessures, tout ça. Donc on sait qu'il a un passé où il a été dans la Légion étrangère, dans les forces armées ou un espion. Mais il y a un peu de tout ça quand même.
L'origine de Alfred, elle change beaucoup dans les comics Batman. Parfois, c'est simplement un serviteur qui se met au service de Batman. Parfois, on sait qu'il a un passé d'ancien soldat et parfois, on sait même qu'il a fait partie des services secrets britanniques, ce qui explique le fait qu'en effet, il puisse soigner énormément de blessures. Mais aussi, ça explique autre chose, c'est qu'il a quelques contacts qui sont des contacts assez particuliers. Et du coup, le fait de voir Henry Palmer, quelqu'un qui s'entend avec beaucoup de monde, qui a des contacts dans certains milieux, ça rappelle énormément le Alfred des comics Batman. Comme si Nolan avait eu cette inspiration en le voyant, en se disant « Ah mais oui, forcément !»
Et inversement, mais il n'est pas impossible que Nolan ait grandi avec les Harry Palmer et ait eu envie de glisser cette éventuelle référence, on va dire, et en même temps, pour camper le personnage d'Alfred tel qu'on le conçoit quand on l'a lu dans la bande dessinée, il a aussi le physique, le port altier, il correspond au rôle, quoi. Voilà.
Côté très british.
Très british, tout à fait. Écoutez Culture Prohibée spéciale Harry Palmer. on va rester chez nos amis britanniques. Alors, on rappelle donc Harry Palmer, premier du nom, est disponible chez Elephant Film. Et chez Elephant Film, il y a aussi... Alors là, il n'y a plus Michael Caine. Hein, il y a Harry Palmer, The Express File, qui est signé James Watkins et qui est sorti en 2022, qui est une mini-série anglaise et qui reprend le personnage de Harry Palmer, parce que c'est vraiment un personnage culte. Il est peut-être moins pour nous de l'autre côté de la Manche, mais pour les Anglais, Harry Palmer, c'est un personnage vraiment très culte. Et c'est signé James Watkins. Et James Watkins, enfin, je pense que les fans de films d'épouvante, d'horreur, se rappellent de son assez éprouvant quand même. Eden Lake, hein, qui est un des survival horrifiques les plus forts qui a été tourné dans les années 2000, hein, avec, c'était au moment de la nouvelle vague anglaise où on avait Neil Marshall qui arrivait avec The Descent, on avait aussi Michael G. Bassett, on avait plusieurs réalisateurs comme ça qui sont arrivés à un moment où il y avait une vraie nouvelle vague anglaise, puis surtout un de nos chouchous qu'on avait longuement interviewé avec Thomas, fini par boire des bières avec lui, c'était Christopher Smith, hein, quand il était venu à Amiens, qui s'est perdu en chemin, hein, Christopher Smith, son talent s'est un peu évaporé avec le temps, et pourtant ses trois premiers films étaient extraordinaires, enfin ses trois premiers longs métrages. Voilà, on peut rappeler Severance, on peut rappeler Creep, et on peut rappeler Black Death, qui était aussi énorme, quoi. Voilà, et puis bon, après petit à petit. Et Triangle, ah oui, mais Triangle, c'est peut-être son chef-d'œuvre en plus, donc, mais pas 3, 4, alors, oui, mais bon, 3 côtés, 4 côtés, je suis perdu, voilà, c'est pour ça. C'est un hard game, Palmer. Harder than you can imagine. Prisoner 17315, Palmer. What do you want? You will help us to locate and retrieve a missing person. Don't mess this up, Palmer. Am I allowed to know where I'm going? James Watkins, lui, par contre, après Eden Lake, il a une carrière plutôt sympathique, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, donc on est très content de le voir revenir aux affaires là, avec cette mini-série. Alors cette mini-série qui est vraiment pas mal du tout et qui est écrite par John Hodge. Et John Hodge, alors on l'oublie, ça a été le scénariste attitré de Danny Boyle avant qu'il se fasse pote avec...
Alex Garland.
Voilà. Avec Alex Garland, qu'on avait aussi interviewé à l'époque, d'ailleurs, au moment de Ex Machina. Et avant qu'il se fasse pote avec Alex Garland, il était pote avec John Hodge. John Hodge, c'est le scénario de Trainspotting, c'est le scénario de Petit Meurtre entre amis. Et d'ailleurs, il faut le dire, en termes de metteur en scène, c'est pas le meilleur metteur en scène qui soit, Danny Boyle. Mais par contre, ça a toujours été quelqu'un qui a su s'appuyer sur des bons scénarios. Je pense qu'il a un bon sens. Enfin, il sent bien les scénaristes. Il arrive bien à trouver des scénarios dont il sait qu'il va pouvoir les illustrer. Et même pour les films que j'aime pas, comme Slumdog Millionnaire, tout ça, il a quand même toujours réussi à trouver le scénar qui allait rencontrer le succès. Il n'a pas eu beaucoup d'échecs dans sa carrière. Et là, bon, là, c'est pas Danny Boyle, donc c'est James Watkins. Et on se retrouve dans l'ambiance un peu remise au goût du jour, mais du Harry Palmer originel avec Michael Caine. Hein. Sauf que là, on est plus avec Michael Caine. On a Joe Cole qui remplace Michael Caine. Bon, on ne gagne pas au change. De toute façon, on ne remplace pas Michael Caine. Hein. Ça, le meilleur acteur du monde ne peut pas remplacer Michael Caine. Mais surtout quand il a incarné le personnage aussi longtemps, c'est assez compliqué dans la tête des gens. Il n'y a qu'un seul interprète d'Harry Palmer, c'est Michael Caine. Mais enfin, on va faire fi de cette problématique d'interprète et on va se concentrer sur cette mini-série qui raconte une histoire, quasi incompréhensible, qui en fait ressemble beaucoup à l'histoire du premier film, mais en plus développé. C'est-à-dire que notre remplaçant de Michael Caine, la Joe Cole, Harry Palmer, il sort de tôle. Il avait fait du trafic d'alcool, hein, ça on en a un peu parlé. Et le renseignement britannique lui confie une mission, retrouver un physicien nucléaire qui a été enlevé. Et alors là, il va vivre plein de rebondissements au fur et à mesure des épisodes. Et il va être avec une équipe d'espions, il va aller à Beyrouth, il va... Enfin bref, du vrai, de l'espionnage, un actionneur d'espionnage. Voilà, on va le définir comme ça, avec une reconstitution vraiment chouette. En particulier, il y a tout un moment une reconstitution du Swinging London. On se croirait vraiment revenu dans les 60s. C'est vraiment chouette. Et alors, en fait, c'est pas une série pour la télé. D'ailleurs, c'est une série pour Prime Video, visiblement. Bon. Et alors, pourquoi ils ont décidé 55 ans après, alors déjà quand ils ont refait les films avec Michael Caine, il y avait 30 ans d'écart quasiment entre le troisième et le quatrième, et là on est 55 ans après le premier film. Pourquoi ils ont décidé de le sortir de la naphtaline, je ne sais pas, mais en tout cas le film est très efficace. Il y a une voix en plus, alors pour notre plus grand plaisir de petits vieux que nous sommes, hein, de voir des nouveaux, des méchants du KGB, des agents doubles, des agents du MI6, la CIA, enfin tout le monde qui s'affronte dans un joyeux bordel. Le film, enfin la série regorge de morceaux de bravoure, de péripéties, on s'ennuie pas une seule seconde. Bon, Joe Cole fait ce qu'il peut, mais il est pas si mal. Et c'est une belle découverte, hein. Moi, je vous conseille de voir, comment dire, cette série, puisqu'elle a conservé, pour moi, ce qui fait le sel un peu des Harry Palmer originels, c'est-à-dire ce même humour british, c'est cette sorte d'humour à froid, là, teinté d'ironie, qui fonctionne très bien dans toute la série. Alors évidemment, il faut la regarder en VO. Hein. C'est quand même mieux. Et donc, c'est disponible chez Elephant Film. Je suis sûr que je t'ai fait envie, Thomas, parce que je sais que tu adores les séries.
Is this a promotion, sir?
Sort of.
Any more money?
Let's see. You're on 1300 pay and allowances.
Yes, sir.
I'll try and get you 1400.
Oh, thank you, sir. Now I can get that new infrared grill.
Well, save your money. Where you're going, you won't have much time for cooking. Dolby works his men, and he doesn't even have my sense of humor.
Yes, sir. I will miss that, sir.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique.